Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour Turbine enregistrée au Media Lab du WIP et diffusée sur la Station B et Radio Pulse. Aujourd'hui nous allons parler du sport mais à un détail près, le sport au féminin. Et oui, aujourd'hui, un an et demi après nos deux émissions sur les femmes dans l'espace public, nous aurons la place des femmes dans le sport. Donc pour citer un article que j'ai lu, il aura fallu plus de 19 siècles pour que les femmes puissent légitimement commencer à faire leur entrée dans le monde du sport. Aujourd'hui, si le sport semble être accessible aux femmes dans les sociétés occidentales, les performances féminines ne sont pas toujours reconnues ni récompensées au même titre que celles de leurs homologues masculins. Pour ne prendre qu'un exemple, en France, le salaire moyen des femmes footballeuses en division 1 se situe entre 2000 et 3000 euros, alors que les hommes touchent en moyenne 60 000 euros en Ligue 1. On entend aussi parler de la polémique autour de la tenue des joueuses de volley qui demandent à ne pas forcément jouer en sous-vêtements de sport, mais avoir des tenues de sport normales et pas juste pour le plaisir de ces messieurs. On sait aussi qu'en 2007, c'est la première fois que toutes les femmes ont eu le droit de participer à toutes les catégories sportives des JO. Donc, il s'agit donc pour les femmes d'une incontestable conquête arrachée de haute lutte à un monde jalousement défendu par les hommes. Mais les armées de femmes rivées aux abdos fessiers, comme les innombrables restreintes qui encadrent encore le sport de haut niveau féminin, jettent une lumière crue sur une réalité complexe. Cet extrait est tiré de Toute musclée, un documentaire Arte réalisé par Camille Jusa, que je vous recommande vivement d'aller voir. Et donc aujourd'hui, je suis entourée encore une fois d'une Dream Team. Je suis avec David qui va prendre une énorme place dans cette émission et ça nous fait très très plaisir. On a Oksane aussi à côté de moi autour de la table.
Oui, bonjour.
Et puis Alain.
Salut Annalou.
Et puis au loin, on a Raph et on a une chroniqueuse surprise, Mad qui va intervenir plus tard. Et puis nous sommes aussi avec Marion qui est à la technique. Donc nos invités du jour, Camille Hermé, escrimeuse, et Zoé Binet, gardienne de but au Stade Malherbe, qui est allée interviewer David. On va tout de suite commencer par l'interview de Camille Hermé qui est avec nous au téléphone. Jingle invité.
Eh bien, bonsoir à tous. Nous allons accueillir dans notre émission Camille. Nous avons la chance de compter dans notre team radiophonique pour cette 32e émission de Bonjour Turbine consacrée au sport féminin, Camille. Camille qui a 24 ans, originaire de Falaise, qui est licenciée au club de Beauvais et également parfois à l'INSEP. Alors l'INSEP, c'est l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Camille rêve de JO de Paris 2024 tout en continuant à engranger de l'expérience sur les compétitions internationales. Alors pour ne citer que deux classements, en 2021, Camille était sixième épéiste française senior et huitième épéiste mondiale U23. Première question, dans l'imaginaire collectif, quand on regarde un peu les films de Cap et d'Épée, et on voit souvent des hommes et dans la société la femme c'est plutôt la femme douce et calme. Alors comment une petite fille décide de choisir l'escrime?
Déjà moi j'aime beaucoup les sports de combat et après c'est vrai que j'ai été inspirée de ces films et des légendes qui ont pu y jouer et j'ai voulu y faire ma propre représentation. Donc en faisant de l'escrime, c'est comme ça que j'ai voulu montrer l'image que je voulais refléter et que je voulais donner aux autres. Et donc, c'est en commençant l'escrime que, par exemple, d'autres personnes pourront s'identifier à moi ou même les autres escrimeuses, comme plus ça va et plus on est de femmes. Donc, je pense que plus en plus de gens peuvent s'identifier à nous.
Alors, j'ai oublié de vous préciser, nous sommes en duo avec Oxane, qui va
Ok.
aussi mener l'interview avec moi. Donc, c'était Oxane qui va reprendre la parole.
Vous parliez de représentation justement des femmes dans le sport. L'escrime, que ce soit masculin ou féminin, c'est un sport qui est quand même moins médiatisé en France, en tout cas, que le tennis ou le foot. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que l'escrime en quelques mots?
Alors, l'escrime, c'est un sport de combat où on est deux sur une piste et le but, c'est de mettre le plus de touches possible et d'arriver à un certain score avant l'autre. Et on a eu un certain temps pour y arriver. Et c'est au bout de ce temps, on n'est pas arrivé au score, c'est celui qui mène, qui a le plus de points qui gagne.
Ok. Et il y a différentes armes, c'est ça?
Oui, il y en a trois. Il y a l'épée, le fleuret et le sabre. Moi, je fais de l'épée. Donc, le but du jeu, c'est de toucher n'importe quelle partie du corps, de la tête aux pieds. Quand les deux adversaires touchent, il y a un point chacun. Et le sabre et le fleuret, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des sports c'est des escrimes de convention, donc avec des règles un peu plus compliquées, avec des prises de fer, etc. Et le fleuret, par exemple, c'est que le buste et le dos, et le sabre, c'est tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture.
D'accord, ok.
Alors, selon vous, quelles sont les qualités requises pour la pratique de ce sport?
Il faut avoir déjà du courage et de l'envie pour faire ce sport parce que c'est pas facile. Il faut avoir une très bonne condition physique, faut être malin, faut avoir aussi une âme de joueur parce que faut savoir jouer sur la piste pour faire des pièges et faire tomber l'autre dans ses pièges. Il faut avoir une bonne mémoire parce qu'on mémorise pas mal de plans d'action, de plans de touche, etc. Donc c'est un peu complet comme sport, mais c'est accessible à tous avec de l'entraînement, je pense.
Et du coup, vous venez de le dire, c'est un sport exigeant. Et en préparant cette interview, j'ai découvert une petite anecdote qui m'a fait sourire. Il paraît que le 30 août de chaque année, vos parents vous demandent si vous voulez continuer.
Oui,
C'est exact?
exactement. C'est vrai, avant chaque rentrée, on se pose et on parle des objectifs de la saison. On parle de la saison qui va arriver. Est-ce que j'ai toujours cette même envie, cette même flamme en moi? Et chaque année, la réponse est oui. Donc, mais c'est important de se poser et de toujours de faire le sport parce qu'on en a envie et pas parce qu'il le faut.
Et juste une petite chose,
Oui, c'est vrai.
il me semble aussi que l'escrime chez vous, dans votre famille, c'est une histoire de famille, l'escrime, il me semble bien.
Complètement. C'est ma maman qui a commencé quand on était toute petite avec ma sœur. On devait avoir 6-7 ans et ma maman a commencé à entraîner à Falaise. Et du coup, on l'a suivie. Ma sœur a plus accroché au début que moi et après, on a arrêté, on a repris. On faisait pas mal de sport étant jeune. Et après, vers l'adolescence, on a repris. Ma sœur a arrêté un peu après, mais elle faisait du sabre. Elle a fait un peu les trois armes. Elle était très forte dans les trois, mais elle a privilégié les études. Et après, c'est mon papa qui a repris en tant qu'entraîneur. Après, il me suit depuis très longtemps, hein. C'est lui qui m'a toujours suivi, mais c'est ma maman qui m'a donné envie de le faire.
Ok, et jusqu'à aujourd'hui, du coup, votre objectif, vous ne le cachez pas, c'est de vous qualifier pour participer aux JO de
Les Jeux,
Paris?
c'est ça.
Ouais.
Pour les Jeux Olympiques, après, il y a Paris et il y a Los Angeles. Les Jeux, c'est tous les 4 ans. Et en fait, à l'escrime, au plus on avance dans le temps, au plus on prend de l'expérience et au plus on a de chance de participer à ces grands événements. C'est pas comme par exemple à la gymnastique où ils font ça très jeune. Nous, c'est avec de l'expérience. Donc oui, ce 2024 et ce 2028 et même après, si il le faut.
Donc
Sinon, je
2024
pourrais.
Paris et 2028 Los Angeles, c'est ça?
C'est ça, oui.
Ok. Et alors, pour participer aux JO, quels sont les critères pour représenter la France?
Alors, il faut que déjà l'équipe de France se sélectionne pour les Jeux Olympiques. Donc, il faut qu'elle soit dans les 5 premières mondiales. Et après, c'est en termes de points. Et en fait, tous les ans, il y a un classement olympique qui se crée. Et faut rentrer dans ce classement olympique en faisant de bonnes performances sur les événements mondiaux.
Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'il vous reste à améliorer pour parvenir à vos fins?
Faire des résultats en circuits mondiaux. Parce que je
Ok.
suis déjà rentrée dans le classement depuis l'année dernière. Et donc là, on continue pour cet objectif.
Justement, vous avez participé à plusieurs compétitions en ce début de saison, notamment la Coupe du monde satellite de Split en Croatie. Quelles sont vos prochaines échéances sportives?
Alors, j'ai une compétition le 26 novembre à Monaco qui est une compétition sélective pour une Coupe du Monde à Vancouver en décembre.
Ok.
Donc, ce sont mes prochains objectifs, Monaco pour me sélectionner pour le Canada.
Bah, de beaux voyages en perspective, alors, au passage.
Oui,
Et vous en...
exactement.
Et on entend que vous vous entraînez, et puis on lit aussi dans les articles, enfin, on vous suit un petit peu sur Internet, on voit que vous vous entraînez vraiment comme une professionnelle. Est-ce que vous parvenez à vivre de votre sport?
Alors, non, mais j'ai beaucoup de partenaires et de sponsors qui font en sorte que l'escrime ne me coûte pas d'argent.
D'accord.
Comme ça, ils me prennent tout en charge. Donc ça, c'est. Mais je ne gagne pas d'argent.
Ouais, parce
Mais ça ne me coûte rien, donc c'est top.
on voit quand même qu'il y a un gros différentiel entre les sportifs professionnels qui eux peuvent en vivre et qui sont plutôt bien rémunérés. Après, je ne sais pas s'il y a un différentiel entre les hommes et les femmes d'ailleurs, mais c'est moins le cas chez les sportifs plutôt
À
amateurs.
l'escrime, non.
À
À l'escrime, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui vivent de l'escrime. Il y en a qui ont des partenariats un peu plus importants ou des contrats avec leur club ou après, je sais pas trop comment ça se passe pour tout le monde, mais personne n'en vit, en tout cas en France,
Ok.
même un peu dans le monde, ça dépend des pays.
D'accord. Et donc, est-ce que c'est pour ça que on a vu en faisant quelques recherches que parallèlement à vos entraînements, vous poursuivez des études. Vous avez un BTS en
Oui,
ressources
c'est
humaines,
ça.
si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Ok. Et vous enchaînez
Puis,
avec un bachelor.
comment?
Vous avez un BTS en ressources humaines et vous enchaînez avec un bachelor. C'est bien ça?
C'est ça. Donc là, oui, cette année, j'ai mes examens qui vont se dérouler en juin. Et si je les réussis, je serai directrice de ressources humaines. Oui.
Ok, et alors justement, est-ce
Mais.
que c'est ce choix de poursuivre les études, est-ce que c'est une manière d'assurer vos arrières, si vous par si, puisque vous disiez tout à l'heure, c'est compliqué de pouvoir vivre de la pratique sportive?
Alors moi, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours fait le double projet. J'ai jamais eu un cursus à aménager ou des choses comme ça, donc j'ai toujours été habituée à faire les deux. Mais oui, c'est vrai que c'est important d'avoir des études derrière. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Imaginons que je me blesse ou que je puisse plus jamais faire de sport parce
Oui, c'est
que
vrai.
j'ai quelque chose derrière. Moi, je pense plus à la blessure, mais après, c'est vrai, oui, que il y a certains sportifs qui arrivent à faire et les entraînements, les compétitions et le travail avec. Parce que justement, on n'est pas rémunéré, donc il faut bien gagner de l'argent.
Oui, c'est sûr. Ne serait-ce que pour pouvoir continuer de vivre enfin, de pouvoir pratiquer votre passion.
C'est ça. Mais
Ok.
encore une fois, moi, j'ai la chance d'avoir énormément de gens qui me soutiennent, que ce soit en région de Normandie ou quelques entreprises sur Paris, qui vraiment, enfin, leur soutien, c'est quand même grâce à eux que je fais tout ça. Donc,
Donc ça fait du bien de
c'est
les
ça.
avoir.
Oui, énormément, oui.
Alors Camille, nous arrivons au temps qui nous était imparti. Alors une petite dernière question. Quel est votre meilleur souvenir de votre carrière? Lequel vous vient en tête comme ça, à brûle pour point, comme on dit?
J'en ai beaucoup. On en a beaucoup dans une carrière, des bons moments. Et c'est surtout quand je réussis à gagner mes matchs, à gagner des compètes et quand il y a des gens qui sont là et qui me soutiennent, qui viennent me voir et qui sont avec moi et que quand je gagne, et je me rappelle les championnats de France que j'avais fait à Caen. Il y avait eu pas mal de partenaires qui étaient là, il y avait mon père qui me coachait et je sais que j'avais fait troisième, donc c'était top quoi. Il y avait énormément de monde qui ont pu assister à ça, donc ça c'était chouette.
Eh bien, merci Camille d'avoir été avec nous.
Mais non, mais avec plaisir.
Est-ce que quand même, très rapidement, vous pouvez nous donner quelques liens pour vous suivre sur les réseaux sociaux, par exemple?
Oui, pas de souci, j'ai une page Facebook qui s'appelle Camille Hermé Escrime. Donc n'hésitez pas à la suivre et vous saurez toutes les actualités au fil des mois, au fil des jours de ce qui se passe.
Super, merci beaucoup
Merci
Camille
beaucoup.
Hermé. On essaiera de vous soutenir justement si vous êtes qualifiée
Et
pour
bah
les JO
merci beaucoup.
2024. Et puis merci à David et merci à Oxane qui nous ont fait une super interview. Et on va enchaîner tout de suite avec Merci Camille.
la chronique de Alain qui a décidé de nous parler de roller derby. Ça va toujours Alain?
Très bien. Jingle. Alain Breton, photoflâneur, conteur. Une photo, une histoire, des histoires sur la Normandie, dans les environs. Bah bonjour. Donc oui, j'ai sur le thème de l'émission, j'ai cherché quelque chose qui pouvait être vraiment typiquement féminin dans le sport, et tout de suite est apparu le roller derby. Alors le roller derby a été créé aux États-Unis dans les années 20, 1920, par des femmes pour des femmes. Ce sport va avoir pas mal de notoriété, va passer sur les médias, etc. Et puis il va y avoir un déclin dans les années 50-60. Et puis, dans les années 2000, un film, Bliss, de et avec Drew Barrymore, en 2009, va faire renaître, va donner un coup de projecteur sur ce sport. Et ça va déclencher des vocations dans le monde entier. Alors, juste avant de continuer, il ne faut surtout pas confondre le roller derby avec ce que pourraient faire penser les gens qui ont vu ou qui connaissent le film Rollerball, qui est un film de science-fiction ultra-violent de 1975, avec entre autres James Caan et John Beck. Ça n'a rien à voir. C'est un sport de contact, c'est un sport physique, mais ce n'est pas un sport violent, ni ultra, encore moins ultra-violent.
Et donc, du coup, revenons-en aux femmes.
Oui, donc c'est un sport aux valeurs féministes, et même s'il est aujourd'hui pratiqué par des hommes, il y a de plus en plus, enfin, quelques équipes, bon, aux États-Unis pas mal, et puis en Europe, ça commence à venir. Il y a même une équipe de France de roller derby masculin. Mais c'est essentiellement un sport majoritairement féminin et qui a cet intérêt par rapport à d'autres sports où la frontière est très difficile à passer. C'est aussi ouvert aux personnes LGBTQI+. Tous les genres sont acceptés. Voilà. Alors, le roller derby est une discipline associée à la Fédération française de roller sportif. La commission dédiée à ce sport vient de publier un nouveau règlement de fonctionnement sportif qui sera appliqué pour la saison à venir. Dans celui-ci figure un chapitre concernant le genre apporté par le groupe de travail Inclusion et Diversité, autorisant les personnes transgenres et intersexuées à intégrer les équipes masculines ou féminines selon leur identité ressentie et non en fonction de leur état civil. Quand on vient au roller, on casse les codes. Il y a beaucoup de bienveillance et pas de jugement. Les cisgenres et les queers peuvent jouer avec nous, on n'exclut personne et on refuse les idées patriarcales. Là, je cite Mathilde, une joueuse de Caen. Un sport inclusif et de non-appartenance à un genre. D'ailleurs, à Caen, elles se surnomment les joueureuses et non les joueuses. Solidarité et cohésion sont sûrement les deux mots qui résument l'esprit de ce jeu. Et tout ont un pseudo inscrit sur leur maillot, au dos. Mathilde, par exemple, se surnomme Jackie Chan. C'est un marqueur d'émancipation au roller derby. Les surnoms définissent ta personnalité, ton style de jeu, ton caractère. Toujours d'après Mathilde, des guerrières à paillettes, aussi avec leur maquillage sur le visage lors des rencontres. Alors c'est un sport de contact, se pratiquant en patin à roulettes quads sur une piste de forme oblongue, c'est-à-dire comme une piste d'athlétisme. Alors les patins à roulettes quads, c'est des patins où les quatre roulettes sont 1, 2, 3, 4, 2 et 2, pas comme les rollers en ligne où les roues sont les unes derrière les autres. Pour leur protection, les joueuses portent des protège-dents, des casques, des genouillères, des coudières et une protection pour les poignets. C'est un sport très protégé. Il faut savoir que quand elles tombent par terre, par exemple à Caen, c'est sur du goudron. L'ancien, la halle des Granges, c'était un garage pour les bus avant. Et donc, le contact avec le sol étant rugueux, elles ont intérêt à être très protégées. Et c'est un sport aussi qui est très arbitré. C'est très codifié, très arbitré, avec pas mal d'arbitres qui sont autour. Alors, les règles du jeu sont simples. Un match dure une heure avec deux périodes de 30 minutes et se divise en jams, des portions jusqu'à 2 minutes. 5 joueuses, 2 équipes qui s'affrontent et elles n'y vont pas de main morte. Il y a 4 bloqueuses, 1 jameuse dans chaque équipe. Elles sont alignées et se lancent sur la piste au coup de sifflet. Derrière elles, les 2 dernières joueuses de chaque équipe, les jameuses, partent juste après. On les reconnaît à leur étoile sur le casque. Leur but, dépasser les bloqueuses adverses groupées en pack pour passer en tête et faire le plus de tours de piste possible. Alors, si ça veut déclencher des vocations, à Caen, il y a un club de roller derby qui s'appelle pour l'équipe numéro 1, l'équipe première, The Leopard Avengers, qui évolue en National 1, et l'équipe 2, les Pétroleuses, en National 2. C'est un sport qui a été créé en, un club qui a été créé en 2011, et il évolue dans la Halle des Granges, à côté du Stade Elitas. Et les entraînements s'y passent aussi, ainsi qu'au gymnase de la Pomme d'Or et au manège de l'Académie de la Guérinière, qui se trouve près de la caserne du Canada.
Merci beaucoup Alain.
Je t'en prie.
Eh ben, on est très content de savoir qu'il y a un club de roller derby justement à Caen. Et puis on ira jeter un œil au film Bliss. Et on va faire une petite pause musicale. On va s'écouter le morceau Peaches de Boys Wanna Be Her.
Je peux faire une petite présentation pour préciser tout ça. Oui, donc un titre qui est un contenu hautement féministe, à ne pas mettre entre les oreilles de son tonton réac. Donc comme tu l'as dit, Peaches, Boys Wanna Be Her, en rapport avec la chronique d'Alain, puisque ça figure dans la BO du film Bliss de 2010, avec Ellen Page comme actrice principale aussi. Alain ne l'a pas précisé. Peaches, c'est une Canadienne. Dans ses chansons, il y a beaucoup de paroles sur le sexe, sur le genre. Et je voulais dire quelque chose d'autre, mais on va juste écouter la musique pour se mettre dans l'ambiance du roller derby.
Yeah.
nous sommes de retour sur Bonjour Turbine. On vient de s'écouter un titre qui fait du bien. On vient de s'écouter le titre Boys Wanna Be Heard de Peaches. Et vu que, comme je disais en début d'émission, David est très présent, vu qu'il va encore nous proposer une interview. Tu es allé interviewer Zoé Binet. Explique-nous un petit peu tout ça, David.
Alors, Zoé Binet est une joueuse du Stade Malherbe de Caen. Enfin, ex-joueuse maintenant du Stade Malherbe de Caen. Mais puisqu'elle a arrêté sa carrière cette année et que maintenant, elle travaille à Cap Sport. Alors, Cap Sport, c'est une association sportive... Hérouvillaise qui a pour but de rapprocher les publics éloignés du sport. Voilà. Donc je vous laisse avec Zoé. Bonjour, je suis en compagnie de Zoé Binet. Alors Zoé Binet qui est une jeune femme qui est arrivée à Cap Sport cette année, d'après mes renseignements, et qui est née à Vire et qui est une joueuse de foot, une ancienne joueuse de foot maintenant, d'abord dans le club de Saint-Malo, ensuite de Vire et puis tout récemment au Stade Malherbe de Caen, avec aussi, toujours d'après ce que j'ai pu trouver, deux sélections en équipe de France U16 il y a quelques années maintenant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le football ?
Bonjour. En fait, mes deux plus grands frères jouaient déjà au football eux aussi, et donc j'ai suivi le mouvement.
D'accord. Donc ton poste, c'est celui de gardienne de but. C'est quand même un poste particulier. Et qu'est-ce qui t'a poussé dans les buts ? Et puis, est-ce que tu as toujours été gardienne de but ?
Eh bien, encore une fois, c'est mes frères. Ils étaient tous les deux gardiens de but. Et donc, ça m'a bien plu, la boue, etc. C'était mon dada quand j'étais petite.
Alors du coup, nous lui avons posé la question suivante, enfin je lui ai posé la question suivante, quels étaient ses modèles de gardien de but ?
Moi c'était plus Grégory Coupé à Lyon et Gianluigi Buffon, donc surtout à la Coupe du Monde. Les premiers souvenirs que j'ai c'est la Coupe du Monde 2006 et il m'avait assez impressionné lors de la finale.
Mais Buffon et Coupé, c'était dans leur style, deux très 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 bons gardiens, effectivement. Et effectivement, Buffon, cette année-là, il est un peu monstrueux. Il aurait pu, d'ailleurs, à mon avis, avoir un ballon d'or cette année. Tu as fait quand même beaucoup de clubs, donc beaucoup de matchs. Quels sont tes meilleurs souvenirs de foot ?
Mes meilleurs souvenirs, c'est pas forcément... club, même s'il y en a des marquants vraiment en club, mais ça va être les tournois UNSS en fait. J'étais à Bressé en sport-études et on a fait deux tournois des championnats de France UNSS et vraiment avec les copines, etc. Ça m'a bien marqué.
Oui, l'UNSS, donc c'est le sport de non national, sportive, scolaire, c'est ça ? Donc c'est le sport scolaire en fait. Donc, l'an dernier, tu arrives au Stade Malherbe de Caen.
Il y a 2 ans.
Il y a 2 ans, donc, tu arrives au Stade Malherbe de Caen. Donc, c'est un club pro avec des installations pro et du coup, une équipe première qui, chez les hommes qui évolue en D2. Et vous, votre équipe qui est en régional, au plus haut niveau régional. Est-ce que dans le club, est-ce qu'il y a une volonté de rapprocher les deux équipes ou est-ce que chacun est de son côté ?
C'est vrai que chacun est plus de son côté parce que c'est compliqué pour nous regrouper. On n'a pas forcément les mêmes emplois du temps, etc. Mais on les a quand même croisés quelques fois. On avait les places pour aller au match. On avait notamment sur les nouveaux maillots, la présentation, on était les deux équipes à pouvoir y aller, donc on les a quand même vus de temps en temps.
Donc pas forcément une véritable volonté, mais pas non plus, voilà. C'était pas non plus chacun chez soi en fait. C'est ça. Par rapport aux installations, enfin un certain confort par rapport à d'autres clubs qui sont peut-être moins dotés, est-ce que c'est intéressant d'être dans un club professionnel?
Forcément, dans un club professionnel, c'est beaucoup plus confortable. On avait des kinés, des docteurs qui pouvaient nous voir quand on le voulait. Donc, c'était vraiment un plus par rapport à d'autres régionales qui n'ont pas ça, quoi.
Oui, effectivement, j'imagine que c'est pas donné à tout le monde. Tu as arrêté ta carrière, si on peut dire, cette année pour rejoindre Cap Sport. Est-ce que le rectangle vert te manque un petit peu?
Oui, forcément, il manque un petit peu. J'ai passé 16 ans de ma vie sur les terrains tous les week-ends, donc c'est vrai que ça me manque, mais bon, je trouve autre chose à Cap Sport qui m'intéresse aussi grandement, et sur ça, je pense que j'ai fait le bon choix.
Et justement, tu parles de Cap Sport, quel est ton rôle alors du coup à Cap Sport, quelles sont tes missions, et peux-tu nous en parler?
Alors moi je suis sur le monde du handicap, donc sur le pôle handicap. Je suis enseignante APA, j'ai passé l'année dernière ma licence en activité physique adaptée, donc par STAPS. Et donc aujourd'hui je travaille essentiellement avec des personnes en situation de handicap mental, psychique ou physique.
Tu accompagnes Solidar Sport le mardi soir sur l'activité foot?
Exactement, oui, aussi, c'est une de mes autres missions. Donc le public change un peu, mais il y a toujours une bonne ambiance et c'est vraiment super. Ça me permet aussi de jouer un petit peu au foot. Donc c'est pour ça que ça ne me manque pas trop non plus.
Est-ce que c'est envisageable d'imaginer que tu puisses un jour retrouver le chemin des terrains, ou est-ce que c'est définitivement la page est tournée
Ah bah, ne jamais dire jamais, mais oui, je pense que j'y reviendrai un jour. C'est quelque chose qui va me manquer, je pense. Et donc, je reviendrai plus tard quand j'aurai bien pris mes marques à Cap Sport et que j'aurai un peu plus de temps.
Eh bien, merci Zoé. Peut-être un petit message pour finir ou pas?
Eh bien, n'hésitez pas à aller jouer au foot parce que c'est vraiment un sport incroyable pour toutes les jeunes filles ou même les plus grandes. C'est ouvert à tous et voilà.
Ben, merci Zoé. Donc c'était Zoé Binet qui a pris le temps de nous recevoir. Et donc je vais redonner la parole à Anna Lou.
Merci beaucoup David d'être allé interviewer Zoé et de nous avoir délivré ce chouette portrait. C'est chouette, on n'a que des portraits de sportives et c'est pas encore fini. On vous garde le mystère pour la suite. Mais David, tu ne veux pas nous lâcher, tu restes encore, parce qu'après deux interviews, t'enchaînes sur une chronique.
Ah oui, alors du coup, là, je fais une petite bêtise, c'est-à-dire que ce serait plutôt sport et Halloween, plutôt que sport au féminin aujourd'hui.
D'accord, ok, bah vas-y, fais-nous sport. Donc, et Halloween.
Gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes.
L'histoire de l'histoire avec David, entrée dans l'histoire dans Bonjour Turbine. Alors il est un lieu où les vieux footballeurs viennent finir leur vie, loin des strass et des paillettes. Cet étrange lieu se situe au cœur de la forêt noire. Il permet de garantir aux stars de s'éteindre loin des fans dans l'anonymat et la tranquillité. C'est ici que Ribéry a perdu son ultime match contre la Grande Faucheuse. Le professeur Jean Michel a bien voulu témoigner sur la fin de la vie de son patient. Ceci est un document exceptionnel, confidentiel et authentique. En réalité, Ribéry s'est drogué à la fin de sa carrière. À force de déborder le long de la ligne, cela laisse des traces. Et sans mauvais jeu de mots, quand il est arrivé chez nous, Ribéry était shooté. Il ne parlait plus. Mais avait-il un jour su s'exprimer? Les scientifiques se posent toujours la question. Peut-on lui en vouloir, né avec une case en moins ou une case vide? Personne ne sait. La légende et sa maman racontent que son maître d'école lui aurait dit « Tu n'as rien dans la tête ». Aussi, Ribéry voulut vérifier à l'aide d'un cutter. Il commença à se fissurer le visage, son but étant de s'ouvrir le crâne pour s'assurer par lui-même que sa tête était bien vide. Sa maman intervint et évita le drame. Elle le gronda pour la forme, puis le rassura sur ses facultés intellectuelles. « Mon petit Francky, je vais te donner un conseil qui te servira toute ta vie. Moins tu parleras, plus tu diras des choses intelligentes. Nous avons eu beaucoup de mal à le soigner. Les blouses blanches des infirmières lui rappelaient les couleurs de l'OM, alors il chantait à tue-tête Alléluia, où tu es, nous sommes là. Nous avons alors demandé aux infirmières d'enlever leurs blouses, de venir en maillot de bain. Mauvaise idée, notre stagiaire Ingrid a bien failli se faire violer par Ribéry, qui lui sauta dessus en criant droit au but. Quand on lui demanda pourquoi il avait voulu violer la jeune fille, celui-ci sanglota. Et il dit qu'il avait cru voir en elle la réincarnation de Zaya. Finalement, nous avons décidé de grimer les infirmières avec un masque de tapis. Elles devaient commencer leur phrase par « Allez, bonhomme !» Cette solution le calma un temps jusqu'au moment où il se rendit compte qu'il n'avait jamais eu Nanar comme président. Finalement, on le transféra au mercato dans la chambre de Jean-Pierre Papin, un ex-buteur sans but. Eureka, c'était la solution. Ils s'entendaient bien, un peu comme un duo d'attaque prolifique. Quand les infirmières ou les docteurs passaient dans les couloirs, on pouvait les écouter. Papin disait « balle » et répondit, et Ribéry répondait « long ». Et cela durait sans discontinuer jusqu'à ce que l'un des deux s'endorme. Conséquence, l'autre ne tardait pas à rejoindre les bras de Morphée. Un jour, la santé de Papin se dégrada, de la vapeur lui sortit des oreilles. Pourquoi, les savants ne savaient pas, mais ils donnèrent un nom à cette maladie, le syndrome de Denis. Ne sachant trop que faire, les spécialistes décidèrent de lui faire une perfusion de cacolac, mais en vain. Il tomba dans un coma profond. La chorale de l'hospice, composée de Jean-Yves Ours, Cocu, Tudor et Milla, tentèrent de le réveiller en chantant « JPP revient ». Le 1er juillet 2020, à 21h, mouraient le Goléador et le Ballon d'Or. Vieira, devenu pasteur après son échec à Nice, avait pris sa retraite dans un monastère de Saint-Étienne. Il fut sélectionné pour les obstacles. Thuram fut le fossoyeur. Thuram, tu creuses. Voici les derniers mots qu'a dû entendre Jean-Pierre Papin. Pas une ligne dans l'équipe le lendemain, un scandale. Par contre, Ribéry, qui venait de se réveiller, finit par se rendre compte que son coéquipier ne faisait plus de passes et encore moins de phrases. Il se leva pour vérifier le lit de son voisin. Force est de constater que le lit était vide au moins autant que la place rouge. Ribéry aurait bien voulu faire un dernier béco à son ami. Sa tension monta et dans un éclair de génie, il se souvint du film « Vol au-dessus d'un nid de coucou ». Il voulut imiter l'Indien en jetant sa table de nuit par la fenêtre et sauter pour se sauver. Malheureusement, il avait omis un détail. Il était au 15e étage de l'hospice. On le retrouva explosé dans une drôle de position. Le légiste supposa qu'il avait dû tenter une dernière tournée acrobatique. Voilà ce que je peux dire sur la fin de Ribéry. Nous avons encore beaucoup de boulot avec Leboeuf, Rami ou même le vieux sonore qui est sourd mais qui résonne encore bien. Je vous laisse. Chut, vous n'êtes jamais venu là. Je n'existe pas et évidemment, tout ce que je vous ai raconté est faux et archi-faux.
Merci beaucoup David et on va réappeler Raph qui nous présente la prochaine pause musicale.
Oui, alors si je vous dis Jeux Olympiques de Nagano 98 et salto arrière, est-ce que ça vous dit quelque chose?
C'est pas genre la joueuse de ouf russe là?
Non. Enfin, salto arrière sur la glace.
Ah ouais, non, je sais pas.
Surya Bonali. Oui, bien vu David. Surya Bonali, patineuse française qui a marqué l'histoire du patinage français et même mondial. En tant que femme, elle a vraiment pris une place dans cette discipline. Alors déjà de base avec beaucoup de place pour les femmes et un des seuls sports plus regardés par les femmes que par les hommes. En 98, ce salto arrière qui est normalement interdit en compétition, qu'elle a fait quand même, c'était cette dernière compétition internationale à ce niveau-là, comme un pied de nez à ce sport qui l'a parfois, souvent mis sous pression et n'a pas reconnu son talent. Et donc, en patinage, on utilise de la musique pour les compétitions et une des musiques utilisées souvent par Surya Bonali, c'est les 4 saisons de Vivaldi et notamment le premier mouvement de l'hiver. C'est un concerto pour violon, un peu de classique dans Bonjour Turbine, ça ne fait pas de mal.
Mmh.
et nous sommes de retour sur Bonjour Turbine. On vient de s'écouter l'hiver tiré des quatre saisons de Vivaldi et nous accueillons une chroniqueuse surprise pour une première fois autour de cette table, Mad. Coucou.
Hello.
Alors pour info, Mad, elle est coworkeuse du WIP, mais depuis longtemps, elle fait partie de la team. On l'aime beaucoup. Oh. Et Mad est aussi une sportive. Hein. Et justement, je te voyais, avant de commencer, je te voyais un peu réagir par rapport à Zoé Binet tout à l'heure. Oui. Tu fais du foot aussi.
Exactement.
Ouais. Bah voilà, bah c'est cool.
Je croyais que tu voulais que je réagisse par rapport à ce qu'elle disait, mais...
Ouais, je sens que tu vas nous en parler dans ta chronique aussi.
Un petit peu, ouais. Oui. Alors aujourd'hui, c'est ma première chronique dans Bonjour Turbine et je suis vraiment très heureuse de pouvoir donner de la voix pour le sport au féminin. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais je suis une passionnée de sport et une passionnée de sport féminin. Et quand Thomas m'a proposé d'intervenir à Bonjour Turbine, je n'ai vraiment pas hésité longtemps. Je lui ai demandé combien de temps il fallait que ma chronique dure et en rigolant, il m'a dit au moins 36 minutes. Alors ne vous inquiétez pas, je ne parlerai pas 36 minutes, mais j'aurais pu le faire tellement ce sujet est passionnant et qu'il y a des choses à dire. Parce qu'aujourd'hui, encore trop peu de filles et de femmes pratiquent une activité physique sportive régulière. D'ailleurs, dans une étude de l'INSEE, parue en 2017, on y apprend par exemple que seulement 17% des femmes ayant pratiqué une activité physique durant les 12 derniers mois en club ont participé à une compétition dans l'année contre 52% chez les hommes, trois fois plus. Et plus l'âge des pratiquantes augmente, plus leur présence se fait rare parmi les compétiteurs. Alors le sport, on est d'accord, ce n'est pas que de la compétition, mais néanmoins ces chiffres me posent question. Pourquoi retrouve-t-on aussi peu de femmes en compétition ? Selon l'INSEE toujours et les réponses des participants à ce sondage, les hommes déclarent chercher davantage à dépasser leurs limites. Bon, moi perso ça ne me convainc pas du tout comme justification, mais j'ai pu ensuite lire dans le rapport qu'en 2014, 6 personnes sur 10 pensent que l'absence de femmes en compétition s'explique principalement par le manque d'encouragement et non par un manque de capacité ou un défaut du goût de la compétition. J'ai donc continué ma petite enquête et ce week-end, en préparant ma chronique, j'ai classé toutes les unes de l'équipe, donc l'équipe c'est le quotidien de sport en France, sur l'année 2021. Alors accrochez-vous bien, ça va décoiffer. En 2021, plusieurs gros événements sportifs ont eu lieu. L'Euro de football masculin, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, le tournoi des 6 nations, les mondiaux de hand, hommes et femmes, et j'en oublie encore plein. Parmi tous ces événements, on a eu seulement 13 unes mettant à l'honneur une ou des sportives. Parmi ces 13 unes, il y a quand même l'affaire Amraoui dans la catégorie du football féminin qui a fait la une, mais pas pour de bonnes raisons malheureusement. Et à mes yeux, il y aurait dû en avoir au moins une de plus, donc 14. Alors, petite question, est-ce que vous savez ce qu'il s'est passé le 8 août 2021 ?
Dis-nous.
Ah. Alors, à ce moment-là, on est aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les sports collectifs français sont sur le toit du monde. Et le 8 août, pour terminer en beauté cette quinzaine olympique, les filles du hand remportent pour la première fois de leur histoire la médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est incroyable et inédit surtout. J'avais prévu d'aller acheter l'équipe le lendemain et je suis tombée des nues. Lionel Messi, footballeur et mégastar mondial, était en une du quotidien parce qu'une rumeur disait qu'il allait peut-être signer à Paris. Voilà, c'est donc ça le sport féminin aujourd'hui. Malgré les éclats, les victoires, le travail, ce n'est pas suffisant et un footballeur dont le transfert est à ce moment-là hypothétique, rappelons-le, sera prioritaire. Parce que derrière tout ça, il faut être réaliste, le but est de vendre des journaux, vendre des créneaux à la télé, vendre des clics sur Internet. Et malheureusement, le quotidien français le plus lu en France n'est pas encore prêt à s'engager sur cette voie. Je parle de sport féminin, mais une quantité de sports pratiqués par des hommes et des femmes mériterait eux aussi beaucoup plus de une et d'articles dans les médias. Pourtant, le sport féminin attire les foules. Prenez l'Euro féminin de football qui a eu lieu cet été. Record d'affluence historique à Wembley, Euro masculin et féminin confondu pour la finale qui a opposé l'Angleterre à l'Allemagne. 87 192 spectateurs. Alors pour comparaison, le Stade de France peut accueillir quant à lui 80 000 spectateurs. En Espagne, le record mondial d'affluence à un match de foot féminin a été battu le 22 avril 2022 dans un match opposant Barcelone à Wolfsburg. 91 648 supporters, c'est incroyable. Mais il ne faut pas se reposer sur ces chiffres parce que dans notre pratique au quotidien, il y a encore tellement à faire. Trop de sportives et athlètes sont obligés d'avoir un métier à côté de leur sport pour pouvoir vivre, contrairement à leurs homologues masculins dans certains sports. Et ça, c'est injuste. Nous sommes tout autant passionnés par nos sports respectifs, par la compétition, par le défi, par le dépassement de soi. Nous avons besoin que la lumière soit mise sur notre travail et notre dévouement. Alors si le blues vous guette, si vous cherchez du courage, je vous conseille très très vivement de regarder la série documentaire Toute musclée, sortie sur Arte, dont Annalou a déjà parlé en introduction. Ce sont 4 épisodes de 15 minutes chacun qui traitent de la place de la femme dans le sport. Les intervenantes sont de qualité, mêlant historienne du sport, instagrammeuse, sociologue du sport, athlète. Et je peux vous assurer qu'en ayant regardé cette série, vous allez en ressortir plus fort et plus déterminé. Je peux aussi vous conseiller de regarder le film documentaire Maiden qui relate l'histoire vraie de Tracy Edwards, une jeune femme de 24 ans, à qui l'on a interdit de participer à la plus grande et à la plus dure course de voile au monde en équipage sous prétexte qu'elle était une femme. Elle décide donc en 1989 de monter son propre équipage de femmes pour participer à cette mythique course, et je ne vous en dis pas plus. Pour la petite anecdote, j'ai pleuré tellement j'étais bouleversée par toutes ces femmes qui se lèvent et se battent pour leurs convictions. Alors pour terminer, j'ai un message que je voudrais transmettre à toutes celles et ceux qui nous écoutent. À toi qui rêves de devenir médaillé olympique, athlète professionnel, entraîneur, président de club, finisseur de marathon, ou même à toi qui rêves de pratiquer un sport, crois en tes rêves, ne laisse personne te dire que ce n'est pas possible, ou pas bien, ou pas fait pour une fille ou un garçon. Ne baisse pas la tête, fais-toi confiance et travaille dur.
Waouh, trop bien, merci Mad.
Merci.
C'est ça qu'on veut. Bah, moi, je suis très touchée par tout ce que tu as dit. Je trouve que c'est formidable et qu'il ne faut pas s'empêcher de le dire et de le redire.
Exactement.
Top. Trop cool. Et oui, donc, allez voir le documentaire Femmes musclées. Vraiment, il est top, top, top. Et il fait bien le point sur ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu du sport pour les femmes. Et l'émission touche bientôt à sa fin. Donc, on va accueillir Lafken pour sa fameuse chronique de la microfolie.
Dali était-il fou ou sans esprit ? Picasso voyait-il le monde en cul ?
Ok.
La poule vient de l'œuf. Mais l'œuf vient de la poule ? La folie, c'est de répéter la même action encore et encore en pensant que ça va changer le résultat.
Encore, encore.
Comment l'homme s'est dit qu'il pouvait boire ce qui sortait de la vache ? Qui est le premier à s'être demandé si c'était normal d'avoir des voix dans sa tête ? Si j'achète du pain avec un tableau, ce serait une croûte ? C'est ça. La folie.
Le saviez-vous ? Mais dans sport féminin, on peut retrouver l'idée que plein de personnes ne connaissent rien à cette pratique parce qu'il y a le mot féminin. Je me souviens de folles soirées où tonton Roger, bière à la main et clope au bec, ouais, il avait du sang de canard dans les veines, regardait du hand en me sortant des « ouais, c'est pas un sport de gonzesse !» Bah si, tonton Roger, il y a une équipe féminine et elles ont gagné des championnats. Bon, après, j'avoue que la seule discipline sportive que je regarde, c'est celle où je ne ferai jamais de comparatif avec des sportives. Je regarde les championnats de curling, la seule discipline où la maîtrise du balai est nettoyée vite a son importance. Mais aujourd'hui, j'adresse cette chronique à vous. Oui, vous qui en avez marre de cette société, marre de cette réalité qui nous enferme dans le carcan habituel. Vous avez cette possibilité, durant le 12 novembre, de changer cette réalité, de passer dans un autre monde et de voyager au Mont Blanc, ou bien encore de se poser et contempler les nymphéas, de nager avec des dauphins, ou encore de sentir la fournaise du Vésuve vous chatouiller le petit orteil. Car oui, le 12 novembre, c'est la fête de la réalité virtuelle à la microfolie, où les vidéos d'Arte 360 vous feront voyager. Qu'oui-je ? Ceci ne vous satisfait point ? Qu'à cela ne tienne, je vous donnerai le contact de mon cousin Andy Bongo. C'est un prince du Niger en recherche désespérée d'une âme charitable pour l'aider à dépenser son oseille, sa thune, son flouze. Enfin, sa thune, quoi. Et enfin, partir avec Géraldine, l'amour de sa vie qu'il a rencontré sur le Bon Coin. Magnifique site de rencontre pour tous les brouteurs. Tout ceci vous semble logique ? Alors je vous invite à venir me consulter le 19 novembre lors d'un atelier sur les arnaques en ligne. Cette manière express de faire les rubriques agenda, c'est un sacré gain de temps et d'économie en termes de créativité. Mais ça me laisse l'occasion de vous proposer un temps agréable. Nous pourrons parler de temps qui passe et de... Mais non, c'est le temps du quiz.
Ouh, le quiz.
Sport féminin, sportif célèbre, bien évidemment.
Ok, je vais perdre.
Alors, j'ai pris des faciles. Né le 5 juillet 1979 à Saint-Germain, je débute dans ma discipline dès l'âge de 4 ans. En 93, j'arrive en demi-finale des Petits As. En 96, je deviens championne du monde junior. En 2004, je deviens la numéro 1 mondiale de ma discipline et la première française à porter cet honneur. J'ai affronté Maria Sharapova, je suis une tenniswoman, je suis...
Amélie Mauresmo. Mauresmo.
Amélie Mauresmo, mais oui, complètement. On en parlait en plus en préparation. Alors celle-ci est importante. Je suis né en 1947 à Hamburg en Allemagne. Je réalise mes études aux États-Unis et me découvre une passion pour la course à pied. Après des années d'entraînement, je décide de courir un marathon reconnu en signant de mes initiales pour tromper les juges qui acceptent de me laisser courir. C'est lors du jour de départ que le public découvre que je suis une femme et que cela marque l'histoire. J'ai été la première marathonienne du marathon de Boston. Une photo montrant l'organisateur du marathon de Boston voulant m'arracher le dossard m'a rendu iconique. Je suis...
J'ai pas le nom, moi, mais je vois.
Ouais, moi aussi, voilà. Je vois, mais j'ai pas le nom.
Catherine Switzer.
Ah bah oui,
première femme à avoir connu, à avoir couru le marathon de Boston et qui a fait aussi évoluer la cause. Je suis né en 58 à Annecy. Je commence une carrière sportive loin de ce qui me vaudra la célébrité, car c'est dans le domaine des sports d'hiver que je débute. Après 3 ans, je change de discipline et commence à courir auprès d'autres femmes, et me fais vite remarquer. Mon palmarès est de 59 médailles d'or pour les championnats de France, 13 aux championnats mondiaux et une médaille olympique. Je suis la cycliste la plus célèbre en France.
Jeannie Longo.
Je suis Jeannie Longo, effectivement. Bon, sur ça, moi, je ferme cette parenthèse. Il y a les championnats de la meilleure lanceuse de rondins sur Sport Insulte TV. Et je dois à tout prix le regarder. Gardez l'esprit créatif.
Merci beaucoup, Lafken. Et du coup, on arrive à la fin de cette émission. Donc, on va remercier toutes les personnes qui ont contribué, comme Zoé Binet et Camille Hermé, qui étaient nos invités du jour. On dit un très grand merci à David, qui a quand même mené la moitié de cette émission aujourd'hui. On dit merci à Mad, qui nous a fait cette super chronique exceptionnelle, à Lafken, à Raph et à Oxane, Alain et à toutes les personnes qui étaient à la technique au nombre de 3 hein, aujourd'hui. Donc il y avait Thomas, il y avait Marion et il y avait Maxence. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça.
Ok. C'est pour et ça ben, qu'on a une émission de qualité.
Exactement, exactement. Ben, bonne soirée à tous. Enfin, bonne écoute à tous. Bonne continuation
bon
à
bon
tous
moment.
Et à bientôt. Söyle söyle fani dünya dert küpümüzün.